East West.
Cop West.
Chaque lundi et jeudi à 20h.
Simon Rongoat, Katel Lagré.
Bonsoir Katel Lagré.
Bonsoir Simon Rongoat.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
On a rechargé les batteries pendant une petite semaine, où on s'est épuisé, on a profité des vacances et
oui,
on arrive, on est claqué. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Chaque lundi et jeudi, on reprend le rythme entre 20h et 20h15 pour parler foot dans l'Ouest. On va commencer, Katel, à tout seigneur, tout honneur, avec ces Brestois qui ne nous surprennent plus.
Non, maintenant on est presque blasés. Même hier, je me disais, ouais, c'est gagne petit.
1-0, c'est pas
foufou.
On écoutera Eric Roy nous parler de ce matelas d'avance, 10 points d'avance pour
sur
l'Europe.
Marseille, par exemple. Non, mais ouais, c'est fou.
C'est un truc de fou pour cette équipe brestoise. Les Rennais se sont cassés la figure après une belle série à domicile. On écoutera le coach Stéphan répondre à Lebris, le Lorientais, qui a su rebondir après la défaite face au Football Club de Nantes de la semaine dernière, des Canaries, qui concluront notre Cop West Ligue 1.
On finit par
avec,
le meilleur.
Les excuses de Gourvennec. Ah, je suis désolé, on a été nuls. Vous allez voir. C'est un petit peu l'état d'esprit des Nantais en ce moment. On discutera de la défense à 5 aussi, du système utilisé par le coach des Canaries. Allez, on est parti pour un petit quart d'heure de foot dans l'Ouest.
Chaque lundi et jeudi,
c'est Cop West sur It West.
Avec le stade brestois donc, Katel, qui s'est imposé face au Havre 1-0.
Et avant le match, ce superbe tifo des supporters brestois en hommage au coach Eric Roy, à King Eric. Et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait dans le Finistère.
Écho à King Cantona à l'époque. Hein.
Victoire 1-0 donc hier face au Havre, un but à la 34e de Les Melou. Que Brest a définitivement bien fait de bloquer cet hiver, je voulais revenir là-dessus quand même. Parce que Pierre Les Melou a une offre, un pont en or vers le stade rennais. Brest l'a bloqué dans le
je
Finistère.
Je crois qu'on dit
Pont d'or. Brest a dit non, tu n'iras nulle part. Ouais. Et d'aucuns auraient boudé, auraient arrêté de jouer. Et Pierre Lesmélou est encore plus flamboyant avec ce stade brestois. Donc, comme quoi, l'idée qui veut que quand tu bloques, il ne faut pas bloquer un joueur contre sa volonté parce qu'après, il ne fait plus rien. Maintenant, ça dépend juste de l'homme, en fait.
Et ça se passe avant. Ça, c'est au moment du recrutement du bonhomme. Si tu sais que c'est un bon bonhomme, au moment où tu vas un peu le contraindre, il va quand même bien réagir. Dans le recrutement, il y a la qualité du joueur et il y a la qualité de l'homme. Et Brest a su recruter habilement de ce point de vue-là. Et ça donne raison aussi au stade brestois. Et je suis content pour ça. Dès que tu as un petit peu de résultat, quand tu commences à balancer tes meilleurs joueurs, forcément, après, tu es dans la panade. Le stade brestois ne l'a pas fait et s'est donc imposé face au Havre 1-0.
Alors, c'était pas le meilleur match des Brestois cette saison, hein, mais ça gagne. C'est-à-dire que quand c'est ta saison, c'est ta saison. Hein. Même si tu fais un match un peu moyen, eh ben, ça gagne quand même. Le Havre a joué avec un bloc bas. Comme, à mon avis, les Brestois vont en rencontrer pas mal des équipes comme ça d'ici la fin de saison parce que forcément, leur jeu est étudié. On sait qu'il faut bloquer le milieu de terrain. Et puis, on essaie de déjouer ce que font les Brestois, mais finalement ça gagne quand même et au classement donc Brest a ce matelas incroyable sur la première place non européenne.
La 7e, celle de Marseille, 10 points d'avance, 46 points pour Brest, 36 pour Marseille. Écoutez le coach Eric Roy sur ce matelas.
C'est toujours mieux d'avoir quelques points d'avance, hein. On sait que dans les fins de championnat en général les gros il faut partiment carton plein tout le temps, donc il vaut mieux effectivement avoir un petit peu d'avance. Donc on a une confrontation contre Lens, on est déjà fixé sur cet objectif là où il sera important d'être capable de montrer qu'on est effectivement capable de se hisser au niveau de ces équipes-là, et notamment à Bollard où effectivement c'est un stade très mythique et où il n'est pas facile de jouer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tous les matchs, on les joue pour rester là-haut. Je suis fier et heureux de cette équipe parce que voilà, elle rentre dans l'histoire aussi. Les joueurs ont mérité, avec ce 13e match en défaite, de pouvoir marquer quelque part l'histoire de ce club. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plaisir pour eux parce qu'ils s'investissent beaucoup et qu'ils donnent toujours le maximum.
Et ils marquent donc l'histoire du club, les Brestois, qui joueront à Lens. C'est samedi à 21h, cette rencontre-là.
Ouais, ils marquent l'histoire parce que 13 matchs sans défaite, le dernier record d'invincibilité, c'était 1990 et l'adjoint d'Éric Roy, Bruno Grougy, a donné maintenant un nouveau défi, 15 victoires sur une saison. Là aussi, c'est un record qui date de 90, donc il n'en manque plus que 4 sur les 10 matchs restants. Je pense que c'est faisable.
J'ai vu passer une petite photo d'un petit tag aussi sur le stade brestois en Ligue des Champions. Hein,
sur les murs de Francis Leblay.
Voilà. Et on s'est posé la question chez nos confrères de l'équipe sur la capacité du stade Francis Leblay à accueillir des matchs de Coupe d'Europe, y compris de Ligue des Champions. On va tranquillement enquêter de notre côté là-dessus. On fera bientôt un sujet pour en parler plus profondément de cette hypothèse Coupe d'Europe pour le stade brestois. Les Rennais, eux, ne sont plus en Coupe d'Europe, éliminés par l'AC Milan il y a une grosse semaine, mais ils aimeraient bien y retourner tourner. Pour cela, il faut être très performant jusqu'à la fin de saison et éviter les accidents comme face à Lorient.
Ouais, après 3 mois et 8 matchs sans défaite, les Rennais ont chuté face aux voisins lorientais 2-1, face à la plus mauvaise défense du championnat. Mais face à un bloc bas, compact, les Rennais n'ont jamais réussi à trouver la brèche. Et c'est un de leurs problèmes cette saison.
Oui, puis tu parles de la plus mauvaise défense, Katel, mais c'est aussi une équipe qui avait gagné 3 fois sur les 4 derniers matchs.
Bien sûr, mais
c'est
quand
un Lorient en forme.
Ça bétonne quand même. 3 frappes cadrées seulement sur la première mi-temps. Devant, on n'a jamais réussi à trouver Terrier et Kalimuendo. Terrier qui a été assez transparent d'ailleurs. Ludo Blas toujours en difficulté. Bourigeaud moins rayonnant que d'habitude, mais bon, il ne va pas non plus marquer à tous les matchs. Donc globalement, c'était compliqué. On a senti surtout des Rennais fatigués. On rappelle qu'ils ont joué quand même 9 matchs. En un mois, et non des moindres, avec la
coupe
double
de France, coupe d'Europe,
voilà,
et
face au Milan, etc. Donc, ils étaient un petit peu rincés, et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas réussi, à mon avis, à trouver la solution.
C'est la thèse de l'accident pour Julien Stéphan. Ça peut arriver. Et puis, écoutez, il parle aussi d'Europe, ou plutôt, non, il ne veut pas parler d'Europe.
On peut aussi comprendre un petit coup de moins bien sur le match d'aujourd'hui, même si notre match malgré tout il est pas mauvais, hein, loin de là. Ça fait partie d'un parcours. J'ai jamais parlé d'Europe pour la simple et bonne raison que je sais d'où on vient. Je me rappelle de tout, à savoir que fin novembre on avait 12 points en 12 journées, qu'on avait énormément de retard. C'est pour ça que j'ai jamais parlé d'Europe et que j'en aurais pas plus parlé avec un résultat positif aujourd'hui. Voilà, je me rappelle de ça. Je sais aussi que la répétition des matchs, des efforts, l'enchaînement avec un groupe assez jeune peut à un moment donné aussi peser. Pas beaucoup d'expérience de ce genre de marathon-là pour bon nombre d'entre eux. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai jamais parlé d'Europe. Il y a 3 mois, la situation, elle était de sortir de la zone de relégation, de prendre de la marge, de prendre du large. Faut pas oublier ça non plus, ce qui était notre mission principale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un bon résultat, je pense qu'on aurait validé notre maintien, mais on en est quand même pas loin du tout. Donc en 3 mois, finalement, on a très très bien avancé.
C'est vrai, on n'oublie pas tout ce qui a été fait depuis 3 mois.
Le
maintien, j'y pensais même plus pour le Stade Rennais, c'est 35 points Rennes, hein, donc
oui,
normalement
surtout,
c'est déjà bon, hein.
Oui, et puis surtout quand tu vois les résultats du week-end, Nice battu, Monaco accroché, t'avais quand même l'occasion de gratter encore un peu sur le top 5. Aujourd'hui t'es 8e avec 35 points, tu as 4 longueurs de retard sur la 6e place, 5 points sur la 5e, 6 sur la 4e.
Mais oui,
qui est
c'est
occupée
tout près,
par Lille,
c'est tout près Katel,
c'est encore très jouable si tu fais
il
un
reste
résultat
10 journées.
Oui, et si tu vas à Lille le week-end prochain, si tu fais un résultat à Lille, tu peux faire encore un rapproché intéressant. Ensuite tu auras Marseille qui s'est refait une petite santé, puis Strasbourg et Monaco. Moi, je pense que honnêtement et objectivement, il faut faire un point après Monaco, c'est-à-dire début avril.
Je ne parle pas d'Europe. Mais si vous êtes en train d'en parler. Non, je vous ai dit que je ne voulais pas en parler. Bon, ben, on ne parle pas d'Europe alors. Lille-Rennes, Katel, c'est dimanche à 17h pour le stade Rennais. Côté Lorientais, on se réjouissait, côté coach notamment, Régis Lebris, de ce succès. Avec ce constat, on peut gagner partout, c'est ce que dit l'entraîneur lorientais.
Il n'y a pas de stade, soit enfin, d'adversaire au moustoir ou de stade à l'extérieur où on se dit on peut pas prendre 2 points. Enfin, je crois qu'on est capable de prendre des points partout, on est capable de l'emporter partout. Cette Ligue 1, elle est très qualitative. Maintenant, il y a des rapports de force, il y a des états de forme, des scénarios de match. Et on doit être capable de saisir tout ce qui est disponible. Et ensuite, on sent que notre équipe, elle a récupéré de l'unité, on sent qu'elle a récupéré de l'énergie, de la volonté collective. Et donc ça finit par se caractériser, se concrétiser en nombre de points. Donc j'y croyais. On avait quelques ajustements à faire dans cette saison, on les a, je crois, pas mal réalisés. Maintenant, c'est qu'un bout du chemin, parce qu'il reste encore 10 matchs et que la compétition va être très ardue jusque la fin.
Lorient, qui à la faveur de ce succès est repassé au classement devant Nantes et devant Le Havre notamment, 13e avec 25 points. Un succès que les Merlus ont quand même maîtrisé. Ils ont défendu beaucoup, mais ils ont quand même maîtrisé ce succès.
Oui, ils ont quand même bénéficié de la faute de main de Mandanda sur le premier but de Bamba. C'est mais Bamba, c'est 6 buts en 6 matchs depuis qu'il est arrivé. C'est juste incroyable. Kroupi qui met le second. Et je suis d'accord avec Régis Lebris. Tu vois des joueurs qui ont à nouveau envie de jouer au foot, qui ont à nouveau envie de jouer ensemble et qui ont retrouvé du moral, de la confiance. Et ça fait toute la différence. T'es quand même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Alors ça reste très très serré en bas, mais la dynamique, elle est clairement lorientaise par rapport à ces autres équipes de bas de tableau. Réception de Lyon samedi à 17h. Ça va être intéressant parce que Lyon, comme Lorient, va beaucoup mieux depuis le mercato. Lyon, c'est quasiment refait une équipe, hein, sur ce mercato. Mais ça va être intéressant, en tous les cas, pour les Lorientais, pour essayer de se sortir. Peut-être pas définitivement, mais faire un grand pas en tous les cas en dehors de ces eaux troubles.
Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est le FC Nantes. Franchement, les Nantais ont gagné à Lorient il y a une petite semaine. On s'est dit que Nantes était sur la bonne voie, que c'était Metz qui se présentait. Metz qu'à peu près tout le monde a plié depuis des semaines. Et c'est vrai que la première période des Messins, j'étais au stade de la Beaugeoire,
c'est
catastrophique au niveau
c'est
technique, c'est très faible. Et puis Nantes a trouvé le moyen en étant frileux, peureux, défendu. offensif, en voulant contrer une équipe qui elle-même voulait contrer. Personne veut jouer au foot. On laisse le ballon au milieu. Allez-y, venez, venez. C'est un petit peu ça. Et à l'arrivée, bah, c'est Nantes qui s'est fait piéger sur deux opportunités messines. Et il y en a eu d'autres, d'ailleurs, côté messin. Défaite 2-0 des Nantais et les excuses de Jocelyn Gourvennec.
Bah, la première chose à faire déjà, c'est de présenter nos excuses à notre public parce que ce qu'on a fait n'était pas conforme du tout. C'est pas digne du FC Nantes. On a fait un match tout à l'envers.
C'est vrai que c'était pas digne du FC Nantes et moi j'interroge la question de la frilosité des Canaries et de leur coach et de Jocelyn Gourvennec quand on reçoit l'une des pires défenses d'Europe qui perd contre tout le monde et qu'on se met à 5 derrière pour bétonner.
Et 4 attaquants sur le banc, c'est un truc de fou.
Traoré, Kadewere qui sont arrivés au mercato d'hiver notamment, les deux offensifs sur le banc et le seul Moses Simon avec Mostafa Mohamed à domicile contre un des derniers du championnat. Si t'as envie de gagner et que ton seul schéma de jeu c'est de se mettre à 5 parce que ça a marché en étant très défensif à Toulouse et à Lorient, tu viens de gagner deux fois à l'extérieur en étant comme ça avec un jeu très restrictif, ça a passé, mais tu fais ça aussi à domicile. Moi je trouve que les Nantais sont logiquement punis pour avoir été trop frileux. Écoutez Gourvennec, il dit pas la même chose que moi.
Il faut toujours mettre les joueurs dans leur repère, qui gardent leur repère. On est sur plusieurs matchs avec beaucoup de cohérence, y compris la cohérence sur les matchs perdus ici contre Lens et contre Paris, contre deux adversaires forts. Après, on peut pas sans arrêt faire le yo-yo. Vous savez, quand on est entraîneur, grosse partie de notre travail, c'est de mettre les joueurs dans une structure où ils se sentent bien, où ils ont des repères. Et là-dessus, on y est. Je crois pas du tout que le débat ce soit aujourd'hui sur l'aspect tactique, structure. On a changé trois fois de structure en deuxième mi-temps, ça a eu aucun effet, il y a rien eu. On a été à côté de nos pompes, tout simplement. Au mauvais moment et contre le mauvais adversaire. C'est un problème, certainement aussi qu'on a plus de difficultés à prendre le jeu à notre compte. Ça me paraît être évident. Voilà, quand on est dans des situations et configurations de match un petit peu différentes, cet effectif-là est plus à l'aise.
Oui, non, t'es plus à l'aise quand les autres ont le ballon et que tu l'as une fois ou deux et puis que tu essayes de contrer et de gagner un zéro timidement. Petite stat, tiens, que j'ai faite hier soir, j'ai regardé les matchs où Nantes a concédé le premier but. Les 11 dernières fois où c'est arrivé, 0 points. T'es jamais revenu. Donc
non,
en fait, c'est une équipe où tu prends un but, c'est fini. Tu sais qu'ils reviendront jamais.
Mais t'as aucune réaction. Tu pouvais même en prendre un troisième, hein, parce que si Lafond se met pas face à Camara, tu prends le troisième. En fait, tu n'as aucune réaction. Et là où je suis pas d'accord avec Gourvennec, c'est quand t'es footballeur professionnel, si le jeudi on te dit attention les gars, on va plus jouer à 5 mais à 4 derrière, je pense pas que tout le monde court autour du terrain en s'arrachant les cheveux en disant coach, on va jamais y arriver.
On sait pas faire, je
coach. Je sais pas comment on va faire.
Non, mais c'est vrai que en fait, la question, et c'est vrai que parfois avec un effectif réduit, tu t'adaptes à la qualité de tes joueurs, mais là t'as du matos. Il y a des joueurs pour proposer autre chose offensivement, mais voilà, il veut rassurer son équipe, se rassurer, résultat il marque pas un pion à domicile, mais franchement c'est famélique le bilan des buts à domicile sous Jocelyn Gourvennec pour les Canaries malheureusement, et il faudra réagir à Marseille.
Et t'as relancé Metz, hein ?
À Marseille.
T'as relancé
Metz. Alors, Metz, c'est tellement faible. Je me dis que les 5 points qui séparent Metz de Nantes désormais ne seront pas comblés par les Messins. C'est pas possible. Je vois Metz et Clermont descendre, mais le barragiste, ce sera Le Havre, Montpellier, Nantes, Lorient ou Strasbourg. Hein. Et je pense pas que ce soit Lorient. Donc, ça va se jouer avec Strasbourg, Le Havre et Montpellier pour les Canaries qui vont être dans la sauce jusqu'à la fin de saison. En Ligue 2, Catel, Concarneau est allé faire un bon match nul à Dunkerque, 2 buts partout. Laval, match nul également à domicile face à Amiens. Les Guingampais, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? 0-0. C'est pas terrible, hein, petit match nul. Face à 3, on a que des nuls finalement. Sauf ce soir, Angers-Ajaccio, parce que le score sera de.
Le score sera de, à mon avis. 2-0. 2-0 parce qu'il faut se rapprocher d'Auxerre, hein, du leader. Pour l'instant, on est pas mal. On a le SCO sur la deuxième marche, le Stade Lavallois sur la troisième marche.
Saint-Etienne qui revient, attention.
Mais voilà, ce serait bien quand même de mettre un petit peu de distance.
Attention, il y a les Verts qui reviennent. Allez, Angers ce soir face à Ajaccio et on se retrouve jeudi pour un nouveau Cop West. Salut.
Salut.
Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison. Sur It West.